On va passer à la table ronde.
Donc bonjour, je suis Richard Walter, donc je suis aussi au laboratoire Talim qui porte et supporte le projet PIN. Et effectivement, moi je voulais faire une dédicace de cette table ronde à Poison Ivy, à Suzy ou à Harry Up des Slits. Mais Solveig m'a spoilé ma question sur effectivement et mon interrogation sur le peu de représentativité féminine dans le mouvement punk. Et moi qui ai connu le punk et qui ai passé très vite au free party, et j'ai souvenir de la réflexion de Joe Strummer dans le film qui lui est consacré de Julian Temple, qui disait grosso modo, je ne sais plus comment il le disait, mais en tant qu'hétéro blanc occidental, il était très heureux des free parties parce que là, les femmes prenaient le pouvoir dans ces free parties en termes d'organisation, en termes de DJ, etc. C'est vrai qu'on peut peut-être dire que le punk a été un des derniers mouvements beaucoup masculins dans les contre-cultures ou dans les avant-gardes. Et que peut-être aussi les innovations technologiques, on a parlé des cassettes, ne pas oublier que le punk était un mouvement urbain et qu'il est apparu aussi au mouvement où les trains se développaient, les trains interrégionaux, les trains à grande vitesse, où on pouvait aller voir, alors c'est vrai qu'il y avait la voiture, mais moi qui étais à Strasbourg, on pouvait faire un aller-retour dans la journée pour aller voir de Johnny Thunders au Gibus et revenir le lendemain matin à la fac à Strasbourg, ce qu'on n'avait peut-être pas 30 ou 40 ans avant. Donc il y a quand même ces innovations technologiques, ce côté urbain, on en a parlé sur Paris et la ville. Et donc, en fait, j'ai essayé de trouver une autre dédicace parce que, alors, c'est vrai qu'on a parlé du côté masculin. Pour moi, le punk, c'est toujours d'ailleurs trois mecs, trois accords, trois minutes. Bon, depuis, j'ai un petit peu évolué sur les minutes. Mais je me suis dit qu'on pourrait peut-être dédicacer cette table ronde à Barclay James Harvest, qui était quand même ce qui passait beaucoup dans les lycées à ce moment-là. C'était Genesis, c'était Yes, c'était Pink Floyd. On oubliait, moi, mes copains punk, j'avais beau leur dire, Pink Floyd, c'était aussi Syd Barrett. Pink Floyd, c'était Monet, c'était d'autres choses. Donc, il y a ce côté-là de rejeter le passé. Et c'est une des questions que je voudrais poser aux intervenants. Voilà. Rejeter le passé, mais comme à un moment, il y a eu les surréalistes après-guerre qui ont dit, on fait table rase de la littérature, sauf qu'ils ont passé leur temps à se trouver des ancêtres, Lautréamont, Rimbaud, etc. Moi, je suis aussi frappé beaucoup dans les discours, on parle, voilà, on casse tout, mais en même temps, on a des ancêtres. Hein. On a Iggy Pop, les Stooges, les Sonics, etc. Donc, d'où vous venez? Quelles ont été un peu vos influences musicales? Et on a placé aussi cette table ronde sur l'idée de l'histoire collective. Moi, ce qui me frappe dans le punk, hein, moi, j'étais plutôt de tendance crasse, autogestion. Pour moi, même Steve Littlefinger était des sociodémocrates et on voulait vraiment la radicalité absolue. Et on en a parlé aussi, c'est une autre question, c'est que le punk, avant tout, c'est peut-être un état d'esprit, c'est une éthique. On parlait de transmission tout à l'heure. La seule chose qu'il y a à transmettre du punk, c'est le do-it-yourself, c'est l'éthique, avant même de la musique. Donc, c'est cette histoire collective. Comment placez-vous, voilà, est-ce que vous vous considérez dans une communauté, le mot à la mode maintenant, je pense qu'à l'époque on ne l'employait pas, mais à ce côté de sentiment d'appartenance, il y a toujours ce besoin-là aussi du collectif. Donc d'où, voilà, d'où, quelles étaient un peu vos influences et votre sentiment d'appartenir à une communauté. Donc je passe la parole aux uns et aux autres. Donc on a choisi aussi ce côté maintenant peut-être un peu plus organisation de concerts, spectateurs. Donc n'hésitez pas à donner votre vécu sur ces points-là.
Ben, impro total, j'avais pas prévu de venir, donc pour le coup, ben super. Moi, je m'appelle Bérangère, je sais pas trop ce que je fais là. j'accompagne Cook, quoi. Moi, pour l'histoire, la petite histoire, ben, c'est un peu, je sais pas trop vous dire, ça s'est fait tout naturellement, en fait, l'entrée dans la tribu de la punk attitude. Tout simplement parce que je viens d'une fratrie, et que je suis la petite dernière avec trois grands frères devant moi, qui étaient pour moi trois modèles, en fait. Et j'essayais de piocher dans les trois pour me construire. Et du coup, ben, toute petite, je les ai suivis dans leurs aventures. Donc je les remercie parce que c'est grâce à eux aussi que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et donc voilà, donc ils m'ont traîné un petit peu avec les copains, ils m'ont traîné dans les premiers concerts, dans les premières caves de répétition. Et puis du coup, bah comme déjà toute petite, fallait que je me fasse ma place, hein, avec trois frangins au-dessus. Bah ça a été un peu la même histoire en fait avec la avec euh, avec le reste de la tribu dans les années 80. C'est-à-dire que quand j'allais dans les caves où les plus grands répétaient, dès qu'ils faisaient leur petite pause pour boire des bières, je me glissais derrière la batterie en me disant bah tiens c'est bon, ils sont un peu plus loin, je vais essayer d'en profiter un petit peu. Voilà, et puis c'est comme ça que j'ai mis le pied dans la musique. Alors à la fois musicalement, puisque très vite les autres copains ont dit bah tiens finalement reste derrière les fûts, pas de bière, hein. Derrière les fûts de la batterie, on tente le coup, on monte un groupe. Donc le premier groupe dont j'ai fait partie, d'ailleurs Nono était le chanteur, ça s'appelait Mort par excès de travail, c'est à la mode aujourd'hui, on était précurseurs. Voilà, on jouait sur trois fois rien, c'était la débrouille aussi. Et je crois que le mouvement punk, c'est ça qui était bien, c'est qu'on pouvait, en fait on osait. Et on faisait avec trois bouts de ficelle. Moi, j'avais une pauvre caisse claire que j'avais dû récupérer au puce. J'avais un bout de cymbale cassé. Mais je faisais punchak aussi. Et puis voilà, on osait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus dur pour les jeunes parce qu'on est dans une société où il y a l'excellence, où il y a tout ça. Moi, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est faire un premier concert, même si je savais pas jouer. Mais au moins, je partageais quelque chose avec les autres. J'avais une bouffée d'adrénaline. Et ça, c'était génial. Et puis les plus grands qui m'ont regardé jouer la première fois m'encourageaient. Donc ça aussi, c'est chouette quand t'as les plus grands qui disent bah, « Vas-y, continue, lâche rien ». Puis après, j'ai un peu lâché la musique et je suis devenue organisatrice de concerts. Sur la voix aussi, bah, des grands frères, les grands doloproducts, de tout ça, que moi, je voyais toute gamine et je me disais « Mais quand je serai grande, moi, je ferai comme eux, je vais organiser des trucs ». Et voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'essaye de continuer à faire aujourd'hui. Voilà.
Alors moi je suis cook, alors moi je suis une simple spectatrice, je suis tombée dans le punk, enfin le punk et rock étant en même temps, plutôt sur le tard, quand j'ai commencé mes études aux Beaux-Arts. Et je pense que avec du recul, c'est Milouf qui m'a introduit un peu là-dedans. J'ai d'abord fréquenté le lieu dont on parlait tout à l'heure, Ulan Bator, qui était le lieu alternatif vraiment... d'Orléans, l'époque où il y avait des expos, des performances, des concerts, et qui était vraiment un lieu d'artiste aussi, où Jean justement avait son atelier de photo à l'époque. Donc c'est vraiment Milouf, Jean, c'est les deux personnes qui m'ont fait un peu introduit dans ces milieux-là. Et le punk par Milouf, justement quand il avait fait son diplôme, qu'il avait passé son diplôme et qu'il avait organisé le concert. Dans la cave de l'Institut d'art visuel, où là, j'ai rencontré des gens. Et par la suite, le bar Bourgogne, qui était quand même le lieu, le bar fédérateur de l'époque où se retrouvaient tous les jeunes. Et que, voilà, il y avait la fête de la musique aussi, les débuts de la fête de la musique à cette époque-là, où je pense que c'est par ce biais qu'on s'est un peu tous rencontrés, et que les fly passaient, et qu'il y avait des choses qui s'organisaient. Et petit à petit, je me suis un petit peu aussi organisée. J'ai fait partie de quelques petites organisations de concerts, un peu avec Holo Product, on en reparlera avec Blotch tout à l'heure, et d'autres d'ailleurs, quand ça s'est monté. Et puis voilà.
Et pourquoi Cook ?
Alors, pour ça, c'est une vieille histoire. Il n'y a pas de... Il y a pas de raison, c'est pas spécialement pour la cuisine, même si j'ai pu... pour Holo Product aussi dans les concerts être un peu dans les cuisines, mais voilà, j'ai fait d'autres choses.
Je prends celui-là, il marche, vous m'entendez? Ouais, donc moi c'est Boris, l'étiquette avec laquelle je viens aujourd'hui, c'est un peu celle de PPM, qui est une asso qu'on a montée dans les années fin des années 90 avec mon petit groupe. C'est un nom à la con, Power Poulpe and Music. On avait juste trouvé un clip art avec un poulpe, on voulait qu'il y ait musique dedans, il fallait qu'on crée une asso, on s'est dit c'est bien de faire un truc avec des lettres, on voulait un E à l'américaine, une esperluette, donc voilà pourquoi on s'appelle comme ça. C'est très nul, on n'arrive toujours pas à le dire d'ailleurs, tout le monde dit PPM alors qu'on devrait dire PPEM, et bon, c'est pas forcément le truc le mieux marketé du monde. Et du coup on a organisé des concerts pendant pas mal de temps avec cette asso, qui en fait était une asso qui était plutôt un petit peu support promo pour tout un tas de groupes qui n'étaient pas juste punk au départ. Mon petit groupe qui a fait un de ses premiers concerts à l'Astrolabe dans le cadre de l'ascenseur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tremplin. Et puis, du coup, après, on a fait pas mal de promos avec cet asso. On s'est occupé un petit peu même de booking, etc. autour de Gravity Slaves, notamment, qui n'est pas nécessairement un groupe punk au sens essentiel du terme, mais plutôt globalement dans le post-hardcore, quoi. Et puis après, on a joué dans des groupes, etc. Et en fait, finalement, c'est le fait de jouer dans des groupes et d'avoir besoin de faire du réseau qui a fait qu'on a organisé beaucoup, beaucoup de concerts. Je pense qu'il y a des gens à qui ça parle, l'Alien Café, l'Underground. Là, on est fin 90, début 2000, même plutôt, à Orléans. Tout ce qui est aussi, tout ce qu'on a pu connaître dans la rue de Bourgogne, des bars qui ont tenu pas très longtemps, comme ce qui a été expliqué tout à l'heure à l'époque des années 80, ça a été un petit peu la même au moment où l'Astrolabe a commencé à exister, hein, dans le début des années 90, avec le Décret Bruit, etc. Le Décret Bruit, ça doit être 95, je crois, si je me souviens. 98, ouais, tu vois. Mais en gros, voilà, on a organisé des concerts, on s'est pas mal rapproché des Burning Heads aussi, parce que, quelque part, c'était un petit peu les grands frères de beaucoup de gens ici, pour tous ceux de ma génération, ou plutôt ceux qui ont 40 balais et quelques à l'heure actuelle, nous, ça nous paraissait vraiment être l'exemple à suivre. C'était un petit peu on va dire que quelque part, là où ce qui est expliqué tout à l'heure dans le côté un petit peu collégial, etc., tout le monde qui se retrouvait autour de la passion du rock et du punk au sens large, nous on l'a vécu, enfin moi personnellement, c'est plus quelque chose qui m'a permis d'aller faire un réseau quelque part. J'aimais bien la musique d'abord, et puis après je me suis retrouvé à rencontrer Béran, qui m'a fait jouer avec mon groupe à Cité Rock à l'époque, ou à des festivals, je sais plus comment ça s'appelait, parce que ça a eu plusieurs noms. J'ai croisé Cook pour plein de raisons, j'ai trimballé Bludge dans mon camion avec son groupe à une époque où j'étais au Chaume-Dû, et je m'étais acheté un camion pour mon groupe, et du coup je trimballais des groupes, que ça soit des groupes comme les Chewbacca All Stars à l'époque, en gros, le sentiment que j'ai, c'est que c'est une espèce de grande famille où on est sûr de trouver des gens cool, de pas trouver trop de gros connards, et que finalement, même quand on se prend un peu la tête, on finit toujours par comprendre qu'on a beaucoup de choses en commun et que on n'a pas trop intérêt à se prendre la tête parce qu'on se ressemble beaucoup. Donc je sais pas ce que je peux tellement vous dire de plus, mais je vais passer la parole à Blotch.
Donc voilà, je m'appelle Blutch, je suis pas orléanais, je suis arrivé en 88, je suis musicien amateur depuis 35 ans minimum, et je joue toujours, j'ai joué dans plusieurs groupes à Orléans, j'ai la particularité de toujours jouer dans plusieurs groupes en même temps, enfin, ça a quasiment été toujours le cas, ce qui m'a permis justement de côtoyer plusieurs collectifs, et je suis la génération entre Boris et puis celle de Milouf et Karl. En fait, moi je suis dans 70, donc on a à peu près les différents relais. Et pour rejoindre ce que disait Milouf tout à l'heure, quand on arrive à Orléans, qu'on n'est pas d'Orléans, moi je viens du Cher, c'est super dur, c'est hyper hardcore. D'ailleurs, elle avait un peu cette dénomination là cette ville, puisque les gens de Bourges allaient à Tours, et moi avec mon pote Ben, on est venu à Orléans. C'est un peu con puisqu'on n'écoutait pas de hardcore, mais malgré tout on l'a fait, je regrette pas du tout, hein. Effectivement, et puis j'ai commencé, on avait déjà un groupe dans le Cher, puis j'ai monté un premier truc plutôt Garage 60, qui m'a permis de rencontrer via Planète Claire notamment, Roger, j'ai pu rencontrer Stéphane Dubois, qu'on a pu voir tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là, qui fait un concert le 20 avril avec la RN6 en première partie, j'ai oublié la tête d'affiche, au Dropkick. Donc Stéphane Dubois, puis j'ai rencontré aussi Jean-Luc Jousse de Johnson Traffic, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Orléans, on a ce tourneur. Maintenant, il est quand même quasiment à la retraite, même s'il travaille encore un petit peu, et que personnellement, pour les groupes dans lesquels j'ai pu jouer, il a été super, je pourrais le raconter tout à l'heure. Et puis il a fallu aussi avoir des locaux de répète, donc il y a un moment, il a fallu qu'on aille chez Défi. C'est pour ça que Béran est notamment sur la scène, puisque même si il y a moins de gestion de locaux de répète maintenant, pendant un moment c'était Le Gobson et puis Belleneuf, donc il y avait quand même deux locaux de répète, donc Défi. Et en arrivant dans les locaux de répète, j'ai pu rencontrer des gens comme Stéphane Loiseau, qu'il ne faut pas oublier non plus, parce que s'il y a bien un punk à Orléans, c'est bien Stéphane Loiseau. Donc, il était membre des QQQ, de Escape, l'association Reject. Il a été membre également après d'Ange 13, puisqu'à un moment, on est allé aussi répéter Rue de l'Ange, qui a créé l'association Ange 13, un collectif qui a participé largement à la Fédération Hiéro. pour avoir des salles, comme tu l'as très bien dit, Milouf, et pas une salle. Et puis voilà. Et puis quelqu'un qu'il ne faut pas oublier non plus, Michel Rose avec l'association Fokemol, puisqu'il y a une ville en banlieue là, d'Orléans qui s'appelle Saint-Jean-de-la-Ruelle, dont le directeur de l'époque, Michel Labrette, avait laissé l'utilisation d'une aile sur le côté pour des concerts punk hardcore hein, ou crust. Voilà. Et comme d'ailleurs les concerts de la rue de l'Ange, qui n'étaient pas spécialement autorisés au départ, hein, puisqu'on est en plein centre-ville, mais on les a fait, donc c'est l'esprit punk, le fait d'avoir un collectif, d'avoir envie de faire un truc et de le faire. Et le soutien d'autres acteurs pas très loin d'Orléans, de Mains-sur-Yèvre, les gens de l'ex-asso Eco & Co qui nous permettaient de sonoriser un concert pour 150 francs, 1500 francs, pardon, avec tout le matos. Pour revenir sur le sujet là, ouais, effectivement, punk, bon, alors moi je dirais punk rock, là, bon, je suis en photo avec les Dardards de Ville, donc c'est le truc le plus punk que j'ai dû faire, mais au sens punk rock à l'américaine, quoi. C'est surtout le fait de, comme l'a dit tout à l'heure Karl, t'as envie de le faire, tu le fais. Et puis, bah, c'est plus facile de le faire à plusieurs. Et puis, à un moment, de toute façon, peu importe le style de musique que tu vas faire, on s'en fout. L'objectif, c'est qu'on a tous la même envie de faire un truc en commun. Et puis, ça marche. Et puis après, ben, là, vu que là, ça s'étale jusqu'à fin 90, début 2000. Et puis, ben, en parallèle, il y a les réseaux SMAC qui se montent, etc. Il commence à y avoir des fédérations, etc. Et puis, ça a permis également de pouvoir fédérer. Et puis effectivement, au début des années 2000, il y avait quand même une super unité de tous les styles de musique et des groupes. Effectivement, j'ai pu côtoyer Boris et puis voilà, moi le style hardcore mélodique, c'est pas spécialement ma cam, mais on s'en foutait complètement puisqu'il avait un camion. Donc vu qu'on avait besoin d'un camion, on prenait.
Et puis je fais pas du hardcore mélodique non plus là, c'est
punk à roulette.
Encore moins.
On va pas commencer dans la dénomination.
Ah mais c'est pour rire. De toute façon, les premiers punks, c'est les Who, My Generation, 1965. Voilà.
Alors, juste, pourquoi Blutch ? C'est les tuniques bleues
ou... Non, mais ça revient du collège. Oui, c'est les tuniques bleues. Mais c'est, voilà. Mais j'avais déjà un groupe en cinquième, hein, qui s'appelait Chorus, comme l'émission qui passait avant les Enfants du Rock.
Ouais, ouais. Alors, moi, c'est Johan. Donc, je suis la génération juste après Boris. On doit avoir 5 ou 6 ans d'écart. Le punk... alors, en fait, je viens d'une famille catho où on est 5 enfants. Donc le punk, on n'en écoutait pas à la maison, on n'écoutait pas de rock non plus. Quand j'avais 12 ans, mon artiste préféré, c'était Mozart, qu'on avait sur vinyle. Voilà, c'était celui que j'écoutais de mes parents. Et en allant au collège dans une soirée, en plein après-midi, hein, parce que, je sais pas, on avait 14-15 ans. Hein, et il y a quelqu'un qui a foutu un CD Americana de The Offspring. Et alors là, ça a été la révélation, quoi. J'avais un peu ce sentiment de ne pas être à ma place. Il y avait un peu une colère. Il y avait plein de trucs qui me... Encore aujourd'hui, mais j'étais révolté de plein de trucs. Et bon, aujourd'hui, j'ai un peu de recul dessus, mais ça me paraissait super. Il y avait cette énergie qui allait. C'était vite fait revendicatif. Enfin, c'était super. Et donc, du coup, en fait, j'ai commencé malgré moi, grâce à M6, tous les groupes MTV. Donc, c'était ensuite NoFX, Sum 41. J'étais quand même. Et puis, c'était aussi le début d'Internet. Donc, il y avait Emule. Et donc, avec les potes, on se donnait des compiles, mais sur lesquels on ne mettait pas le nom ni des morceaux, ni des groupes. Ce qui était un peu compliqué. Au détour d'un fanzine de l'auto-école, je lis qu'il y a un truc sur les Burning Heads, je tape Burning Heads sur Emule, je télécharge les 5 morceaux que je trouve, et pareil, là, c'est aussi la révélation, quoi. C'est un truc où je me suis dit, putain, cette musique, ça me fait ressentir des émotions, et j'ai envie de faire ça pareil sur scène, en fait. Et puis je lisais aussi toutes les paroles que je traduisais en anglais parce que j'étais pas très bon en anglais à cette époque-là. Avec des groupes comme NoFX qui étaient très engagés, il y a eu commencé à avoir ces idées de l'anticapitalisme, George Bush, tout ça. Et je lisais les bios aussi. Et alors là, c'était ce que j'adorais dans Offspring et NoFX, c'est qu'à chaque fois, la bio, ça commençait. On était au lycée, on savait pas quoi faire, alors on a monté un groupe. Des groupes qui tournaient quand même en Europe, tout ça. Enfin, j'allais du coup à la FNAC faire les écoutes gratuites qui étaient mises en... il n'y avait pas beaucoup de punk rock. Je crois que j'avais 15 euros par mois d'argent de poche. Donc j'achetais un CD, il fallait que je choisisse lequel. D'ailleurs, j'étais assez blasé. Il a fallu que j'économise pour 9FX parce que c'était de l'import, donc c'était 20 balles. Voilà, et donc en fait, arrivé en terminale, je me suis dit, moi aussi, je peux le faire, en fait. Donc j'ai décidé de monter un groupe. On a fait une répète dans le garage de mes parents. C'était mauvais, on n'a jamais fait de concert, c'était nul. Mais ça m'a... enfin, je me suis dit que je pouvais faire de la musique, en fait. Et donc, je me suis dit, quel instrument je vais prendre, je sais pas en faire, je sais pas faire de musique, donc je vais chanter. Puis je me suis dit, puis la basse, on a toujours besoin d'un bassiste. Donc je me suis acheté une basse et on a commencé comme ça. Et quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé mon premier groupe, j'ai rencontré un autre bassiste en cours et on s'est dit, on va monter un groupe de punk, super. Et on a rencontré trois guitaristes et enfin j'ai fait mon premier groupe, Macadam Burger, où on est allé répéter dans les locaux de Défi à la Source. On a fait notre première scène au Défi Festival, on a vu des groupes au Défi Festival, au Strange Festival. Il y avait le 108 qui pour moi est un lieu qui est très important aujourd'hui mais qui l'a été aussi parce que du coup en fait Défi avait ses bureaux au 108 donc quand j'avais des idées que je voulais faire jouer mon groupe j'allais voir Défi pour les locaux de répète, les annonces, est-ce qu'on peut vous prendre du matos, et au même étage mais de l'autre côté il y avait PPM et la Fracama et donc généralement je faisais Défi, hop PPM et ah vous organisez des concerts c'est cool c'est quoi je viens voir blabla. Et sur ce coup-là, en fait, moi, ce que je retiens, on va dire, du punk, c'est que ça m'a donné la possibilité de me dire qu'en fait, à un moment, si j'ai envie, je peux le faire. Alors, sans me rendre compte de tout le travail que ça demandait quand même derrière. Mais... Et je suis allé voir des intervenants, même l'Astro, quand je suis allé voir, je crois, Duf, avec le premier CD qu'on avait enregistré dans la maison pendant que les parents étaient partis en vacances, que j'avais mixé moi-même alors que j'y connaissais rien au son, en live... Je lui ai amené le premier CD en disant hey, « c'est mon groupe, je jouais tous les mois dans un bar qui était le Metallic ». Et je lui ai dit « j'aimerais bien jouer à l'Astro ». Et il m'a gentiment dit quand même « ça demande encore un peu de travail quand même ». Mais enfin voilà, il y a plein de groupes qui m'ont toujours dit que l'Astro, ils comprenaient pas comment on faisait pour y jouer, que c'était super fermé. Et moi en fait, j'ai fait comme d'hab, je suis allé toquer au bureau, dire « bonjour, j'ai un groupe ». Et en fait à chaque fois, que ce soit Défi, PPM... ou l'Astro, j'ai toujours été accueilli et même si on me donnait pas ce que je voulais forcément, on m'a quand même accompagné, on m'a donné des billes, en fast forward, parce que bon là ça c'est mon histoire de musicien, mais en fait aujourd'hui je travaille dans la musique, je suis tour manager, je fais aussi du son en live, et ça si je le peux aujourd'hui en fait c'est ce que le punk et le punk hardcore m'a amené en fait et ça m'a aussi amené et je pense que c'est pour ça que j'étais invité aujourd'hui c'est à monter une asso King of Loose sur lequel j'ai organisé des événements notamment le Hard Edit Woman où j'ai fait deux éditions à Orléans, une à Montpellier où le but c'était de mettre en avant des femmes dans des musiques un peu extrêmes et des pratiques culturelles où c'était justement plutôt réservé aux hommes. Et le Nothing to Prove qu'on a fait au 108, où le but c'était de défendre, on va dire, un peu la culture punk hardcore au sens large, où l'idée c'était de faire des concerts, mais d'avoir aussi des expos, des stands. Il y avait Hardcore Care, d'avoir essayé d'inviter des assos qui parlaient de végétarisme ou de véganisme, des tatoueurs, de dire qu'en fait c'était pas juste on fait de la musique, et voilà, il y avait plein d'autres choses autour.
Merci beaucoup. Moi qui ne suis pas d'Orléans, ça fait que quelques années que j'y habite et je suis venu, j'ai vu Orléans, ville bourgeoise, la Loire, Jeanne d'Arc et j'étais pas du tout, enfin je ne soupçonnais pas du tout cette histoire et en plus, en vous écoutant, j'arrive plus à noter tous les lieux. Je trouve, comparant à d'autres villes où il y avait peut-être une structure qui a tout de suite monopolisé toutes les initiatives. Moi, je suis à Strasbourg, j'étais dans Molodeuil. C'est vrai qu'on a phagocyté un peu on a fédéré plutôt toutes les énergies. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une profusion de bars, il y a une profusion d'associations, il y a une profusion de...
C'est le problème maintenant.
C'est que maintenant,
il y en a beaucoup parce qu'ils ont chacun pas duré très très longtemps en général.
Et puis surtout, c'est qu'on pouvait faire des concerts n'importe où. Je me souviens d'avoir... Parce que voilà, le truc, c'est que très rapidement, on a vite compris que si tu voulais jouer ailleurs, fallait faire venir des groupes d'ailleurs et puis ils te rendaient la monnaie, tu vois. C'est, voilà. Et donc, on a fait des concerts organisés dans des pizzerias, par exemple. Greedy Guts, Canada, je me souviens, dans une pizzeria. Enfin, c'est quand même pas le truc. Et puis surtout, il y avait encore des bars de quartier qui fermaient pas à 8 heures, qui n'étaient pas que d'un truc avec du PMU ou bien un écran pour du football, qui, à partir du moment où il allait doubler sa caisse le soir, il était OK pour faire le concert, pas de problème.
Jouer au tapis vert.
Le tapis vert, ouais.
C'est super glauque, mais moi, je l'ai fait avec mon premier groupe.
Mais voilà. Et, sauf que maintenant, ça n'existe plus, parce que maintenant, les bars sont standardisés, soit vin naturel, soit fiesta pour étudiants, mais il n'y a plus vraiment réellement de bars qui sont prêts. Ou ceux qui essayent, il y a toujours un voisin qui se plaint et les Schmitt qui déboulent pour fermer, quoi. Là, maintenant, du coup, Orléans, là, c'est un peu la cata, à part le Dropkick, donc il y a un club. Lui, pour le coup, il a une scène qui est prévue, mais il n'y a plus de bar. On ne peut plus faire de concert pour le moment à Orléans dans un bar, quoi. Ce qui est un peu pénible parce que, effectivement, c'est quand même beaucoup plus souple, hein. Tu amènes ta sono, tu fais l'entrée au prix libre. Alors, c'est vrai qu'à Orléans, jamais il y a eu un patron de bar qui a fait une entrée gratuite et qui donnait de sa poche. À Bourges, c'est toujours comme ça. Si tu fais un concert à Bourges payé dans un bar, personne ne vient. Parce que donc c'est bien la preuve que si à Bourges les patrons de bar peuvent payer le groupe, c'est bien la preuve qu'ils se font de la thune quand il y a un concert. Enfin voilà. Ça, Orléans, ils n'ont pas compris. Mais bon, voilà.
Sur le côté, j'entends aussi côté grande famille, mais j'entends aussi plusieurs générations. Comment ça se passait avec les grands frères ou les générations précédentes? Parce qu'une des aussi pas, c'est ce qui essaie d'être théorisé, enfin d'être perçu dans Dumpin, c'est qu'il y a plusieurs générations de punk. Je crois qu'on en est à 4, hein, peut-être bientôt 5. Comment ça se passait avec les petits frères ou les grands frères ou les grandes sœurs et les petites sœurs?
Je sais pas si c'est une génération. En fait, c'est une continuité, tout ça. C'est que il y a un moment, il y a eu l'appellation punk qui a été donnée. Alors, elle vient d'où, hein? Est-ce que c'est Lester Banks, quand il critique MC5 en 69, qui dit que c'est des punks parce qu'il les aimait pas trop? Ou est-ce que c'est parce que Malcolm McLaren fait du biz et puis qu'il commence à mettre des stickers punk partout? Ça, c'est quoi punk, quoi, tu vois? Donc je pense que c'est la continuité de l'évolution du rock and roll. Le do it yourself, les hippies l'ont fait avant les punks, hein, et c'est normal parce qu'ils étaient, c'était avant. Voilà, c'est un peu le cours de l'histoire, tu peux rien, quoi. Alors après, effectivement, il y a un moment où on met l'étiquette punk, mais comme dit Milouf, ça veut pas dire grand-chose. Et donc la passation, moi, ma génération, il y a un petit bizutage quand même. Et puis après, une fois que tu as fait tes preuves, c'est bon.
C'était quoi le bizutage?
C'est par exemple, on t'invite sur la scène de la fête de la musique au Vieux Marché. Et puis on te fout la fumée dans la gueule pendant 20 minutes au début du set, quoi. Bon, vu que t'es pas mort, c'est bon, t'as tenu, mec. Voilà, c'était à peu près ça, quoi. Je vais pas stigmatiser personne. C'est du vécu. Mais voilà, entre en gens intelligents, ça marche bien, quoi. Je crois.
Mais vous étiez plus, les voisins de Bludge, vous étiez plus un peu hardcore. Comment ça se passait avec les punks historiques, entre guillemets?
Alors, pour moi, pour parler de ce qui concerne PPM et finalement de ce qu'on faisait jouer, de la musique qu'on pouvait produire à la fois avec mon groupe Devon Miles, avec Gravity Slaves, avec... En fait, nous, on était plutôt... j'aurais plutôt tendance à parler, tu vois, de grande famille, quelque part, enfin de musicale, en tout cas, autour des musiques à guitare, hors métal, quelque part, un petit peu. Enfin, c'est con, hein, mais dans la... C'est pas du sectarisme, mais c'est vraiment comme ça, là, à regarder en arrière. Tu vois, t'as le post-hardcore, t'as l'indie rock, tout ce qui est toute la partie, toute l'époque emo-core, tu vois aussi, et son renouveau dans les années 2000, c'est avec At The Drive-In et tous ces trucs-là. Nous, c'est vraiment ce qui nous a, vu l'âge qu'on a, si tu veux, à 20 ans, c'est le gros groupe du moment, c'est At The Drive-In pour Ben, qui était dans Gravity Slaves ou dans Monde de Merde et qui fait partie de PPM avec moi. C'est vraiment, je pense, le truc qui nous, à un moment, un peu comme Offspring, la révélation, quand Johan, il était au collège, quoi, ou au lycée, nous, c'était plutôt ce truc-là. Et finalement, je trouve que finalement, At The Drive-In, comme d'autres, c'est un petit peu ce qui résume le fait que ça soit l'énergie avant tout, Et puis finalement, tu t'en fous que ça soit à tant de BPM, qu'il y ait des synthés ou pas, que les mecs ils aient des tronches de punk ou de qu'ils aient des crêtes ou qu'ils en aient pas, ou que t'aies des mecs de Fugazi qui arrivent sapés comme toi ou comme moi et qui pour le coup n'ont pas forcément, enfin font pas la musique qu'ils ont l'air de faire quand tu les vois sapés, quoi, tu vois. Donc je pense que sur la question du punk ou pas punk, de se dire est-ce qu'on est punk ou pas punk, est-ce que les autres assos le sont assez, est-ce que nous on est comme il faut, nous je pense que la question elle se posait pas, c'était vraiment un peu comme Lodge disait, le fait de se dire on a des groupes, on joue dans des groupes, on a envie de faire des trucs cool et on a envie de jouer ailleurs, donc finalement on va faire jouer des groupes aussi de notre coin, d'ailleurs dans notre coin, et on va essayer de pas avoir trop d'œillères et de pas faire jouer et de pas écouter que des groupes qui font exactement la même musique que celle que nous on pratique, parce que on était juste des kiffeurs, quoi, tu vois, on voulait écouter et voir jouer des trucs cool, quoi, tout simplement.
Et vous, quand on vous dit grande famille, le punk, ouais. Non, mais quand on vous dit, est-ce que... non, tu ne le dis pas. Mais si moi je te dis, tu faisais partie d'une grande famille, est-ce que tu revendiques, est-ce que ça te paraît sensé?
Avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire avec aussi des moments où ça se passe bien, et puis des moments d'engueulade, et puis des ruptures, et puis on se rabiboche et tout ça. C'est ça aussi la famille, c'est pas... Voilà, mais... Moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je crois que la génération qui était au-dessus, du grand Frangin, avec tous ses potes, donc dans la salle, il y avait, pour nous les plus petits qui arrivions derrière, il y avait un respect quand même. Il y avait pas, même s'ils se foutaient un peu de notre gueule parce que notre look des fois était décalé ou qu'ils nous prenaient pour des petits branleurs, mine de rien, c'était gentil. Et on avait notre place quand même à côté d'eux. Je pense notamment à l'époque de... vous avez évoqué tout à l'heure le bar Bourgogne. Donc il y avait une bande qui traînait plus au bar Bourgogne et puis il y avait la bande du Carreau des Halles. Mais tout ça, ça restait quand même gentillet, ça se provoquait gentiment. Et une fois de plus, quand les concerts étaient organisés, tout à l'heure, Milouf l'a évoqué, en fait, il y avait plein de groupes de styles différents. On jouait, ça se prêtait du matos et les plus grands nous prêtaient du matos aussi aux plus petits. Et ça se passait plutôt bien, ouais. Enfin, je pense. Peut-être que nous, ma génération, peut-être qu'on était moins cool avec ceux d'après, mais peut-être par vengeance ou pour rigoler. Au début, en tout cas, tu vois, on se dit oh, tiens, qu'est-ce qu'ils arrivent là, les petits bourges ou je sais pas, tu vois, sans les connaître. Et puis après, on faisait connaissance, on buvait une bière et puis on sympathisait et des années après, on les faisait jouer sur les scènes qu'on organisait. Donc, c'était bon enfant, c'était... Je sais pas.
Oui, moi, je pense exactement comme toi. Je pense qu'effectivement, moi, j'ai jamais été vraiment dans un milieu bien spécifique. J'ai justement pas mal vagabondé d'un lieu à un autre, même au niveau musical. Hein, je suis assez ouverte sur tout. Et oui, c'était plus justement cet esprit de famille qu'il y avait à Orléans, que j'ai trouvé Orléans et qui m'a vraiment plu. C'était justement de pouvoir passer d'un côté à un autre et de différents univers, mais tout en retrouvant toujours les mêmes personnes. En fait, on n'était pas non plus, quand on parlait tout à l'heure c'était ce matin qui disait qu'il y avait très peu de surpris de voir les jeunes d'aujourd'hui qui savaient pas ce que c'était que le punk, mais nous quand on est arrivé on savait pas. Enfin, je pense qu'on commence tous quand on rentre dans un lieu c'est un peu par hasard, ouais, et on y reste parce que, enfin moi j'y suis resté parce que j'y rencontré des gens et c'est des gens effectivement que je continue à fréquenter aujourd'hui et que j'en rencontre d'autres, mais effectivement c'est un milieu. Enfin, encore une fois, c'est une philosophie, le punk, et à partir du moment où tu croises des gens qui ont la même façon de voir que toi, et ben voilà, et c'est effectivement souvent autour de la musique quand même, parce que c'est quelque chose qui me touche et ça a toujours été la base, le fil en fait, le fil.
Ouais, puis il y avait vachement de bienveillance. Moi, je me souviens d'un concert à Léo Lagrange où les skins parisiens ont déboulé. Moi, je connaissais pas forcément tous les gens qu'il y avait dans la salle, même les autres punks un peu plus grands. Mais mine de rien, il y avait cette bienveillance et il y avait tout de suite ce truc où ils venaient protéger les plus petits. Même si on s'était pas encore parlé, il y avait cette chose-là, en fait. Et, euh, Et du coup, c'était vachement rassurant quand tu étais plus jeune et que tu arrivais sur un concert ou dans le milieu ou dans un bar, c'est que tu te disais « bon, bah ça va, je crains pas trop, les grands sont pas loin, ils me protègent ». Et ça a toujours été.
Je trouve étonnant avec l'image que le grand public a du punk. Voilà, le mot que je retiens, c'est quand même bienveillance dans la famille. Et je trouve que c'est un très beau décalage. Et justement, est-ce que vous aviez, tu parlais de la descente de Skin, est-ce que vous aviez quand même des ennemis communs? Bon, à part les flics, mais est-ce que vous aviez des... Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, est-ce qu'à Orléans, il y avait peut-être une autre scène, rockab, qui vous embêtait, ou comme dans d'autres villes, où ça se passait vraiment un petit milieu, tout le monde s'entendait, enfin, tout le monde s'entraidait, quoi.
Moi, j'ai pas connu ça à Orléans. J'ai par contre, je me souviens quand j'étais. Excuse-moi. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas Rascal, mais moi j'étais interne à Bourges, milieu des années 85, et il y avait encore des bagarres Teddy Boy, Skin, Punk. À Orléans, j'ai rarement vu de bagarres, à part le fameux concert La Famille Véqué, où là c'était. Bah oui, il faut pas. C'est un peu l'émeute quand même.
Moi j'y étais pas, mais je pense que ce serait bien d'en parler, effectivement, parce que j'en ai beaucoup entendu parler.
Et voilà, mais sinon, oui, après, ça se fout sur la gueule à la sortie d'un bar, ça pouvait arriver, ouais, mais des émeutes, enfin des bandes, je sais pas, peut-être avant, la génération d'avant, Pierrick, non, je crois pas, non. Ouais, il y avait plutôt. Ouais, à Tours, ça se fritait, mais l'extrême droite à Orléans était plutôt intellectuelle. Ouais. Et elle traînait chez Tard, mais elle. Oui, bien sûr, mais.
Bon, ben, je reprends. Oui, voilà, il y a des personnalités qui nous ont un peu fédérés quand même. Je pense à Titi, Didier Fillou, Michel Rose, c'est pas du tout des gens sectaires, quoi. Des gens qui aimaient la musique avant tout. Donc, moi, j'ai pas le souvenir non plus de baston, à part, bon, quelques skins de temps en temps, mais c'était pas vraiment des bagarres. Il y avait même une certaine amitié, même avec les bikers, les rockers, j'ai pas tellement de souvenirs de ça, mais les skinheads étaient plutôt à Paris. Quand ils descendaient, ils savaient que c'était pas cool. C'était pas cool. Mais on était amis avec Cominter non plus, enfin aussi, quoi. Et il y avait pas vraiment d'ambiguïté. Voilà.
Ouais, des Teddy Boy, il y en avait au tout début, moi quand j'ai commencé à avoir les cheveux dressés sur la tête, il y en avait quelques-uns connus sur Orléans. Ils n'avaient pas de groupe, hein. Par contre, c'était les Teddy Boy comme on pouvait voir dans les films, les Wanderers ou des choses comme ça, quoi. Et on s'entendait très bien avec eux. On traînait au Lutetia ensemble, on allait faire les fêtes de Jeanne d'Arc, insulter les flics ensemble. Voilà, c'était. Mais par contre, c'est des gars qui ont disparu parce qu'ils ont tous grandi. Bah, si le dernier que certains ont connu, qui était plus vraiment comme un Teddy Boy, c'était Zouki qui bossait au Bar Bourgogne. Mais lui faisait partie de cette bande-là avec sa petite banane. Il avait la super, je m'en rappelle plus comme bagnole, peinte, je sais plus, elle était rose ou bleue. Bah, voilà, c'était
génial. Surtout, c'est qu'il y a un truc qui se passe, que les Teddy Boys, ça remonte quand même, c'est milieu des années 60. Ils se fritaient contre les mods. Il y a un truc qui se passe à la fin des années 70-80, c'est que les punks étaient des boys se mélangent et ça fait le psychobilly avec les Meteors. Et là, c'est dommage que Rascal se parle, mais il l'aurait bien expliqué. Et il y a un moment, en fait, ceux qui se foutaient sur la gueule se retrouvent en fait à faire un mélange de leur musique. Donc c'est super, super intéressant, quoi.
Juste, je voudrais qu'on revienne, parce que. Attendez, qu'on revienne sur l'incident. Donc,
à la feuille Véquée.
La feuille Véquée.
En fait, c'était un concert de soutien pour la famille Véquée. La famille Véquée, c'était une famille de Maliens, je crois, qui avait des gros soucis de papier et la famille allait être refoulée en dehors de la France. Donc, on avait organisé... je crois que c'était les syndicats qui étaient venus nous retrouver à Défi, c'est ça, non ? Ouais, Convergence. Qui étaient venus nous voir pour voir si on pouvait organiser un concert de soutien donc pour cette famille.
En quelle année, à peu près, Béran ?
96, ouais. Ce qui fait que le festival a été annulé cette année-là à cause de... Donc il y a eu une émeute, en fait, avec plus d'une cinquantaine de personnes qui sont arrivées, qui ont envahi la salle, qui sont montées sur scène, balancé tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage. Voilà. Pourtant, c'était un concert très ouvert, parce qu'au niveau de la programmation, on avait à la fois des groupes reggae, rock, punk, il y avait de tout. Tout se passait merveilleusement bien, jusqu'à ce que...
Après, c'est le principal gros incident de concert à Orléans.
Ce qui est quand même peu pour une grande histoire longue et très variée, quoi. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Karl ?
Vas-y.
Si je peux me permettre, il y a quand même eu quelques histoires autour des concerts de rap. Voilà, à une époque. Non, mais ouais. Et sinon, vous vouliez parler de la Jarry, non?
C'est pas du tout Cook qui a cité la Jarry quand, disait, quand on parlait de tension avec d'autres trucs. C'est pas du tout Cook. Non, c'est, pas elle.
C'est quoi la Jarry alors?
C'est un quartier à Olivet.
Voilà, au sud de la Loire.
Donc j'ai bien compris qu'il y a une dichotomie nord et sud de la Loire, y compris en musique avec le punk et le rock. D'accord. Alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou qui veulent réagir un peu sur cette idée de communauté?
Moi, juste, je voudrais rajouter deux, trois trucs, vu qu'on parlait un peu de tout ce qu'il y avait autour. Alors, je peux vous parler que ce que j'ai vécu, mais à un moment, j'avais un pote qui jouait dans Blow Your Watts, qui avait monté un forum qui s'appelait Rockin' Orleans, sur lequel il y avait quand même pas mal de gens qui étaient inscrits, qui mettaient leurs concerts, et c'était un peu avant Razibus et tous ces sites. En local, on avait ça qui permettait de savoir qu'il y avait un concert. J'avais aussi noté plein de groupes que je voyais à cette époque, mais il y a aussi eu Wait for the Night qui a été porté par Cléa Sayous actuellement, Clément avant, qui avait pour but, il est arrivé, donc c'était plutôt autour de 2013, et en fait il filmait.
Il était étudiant aux Beaux-Arts aussi, ouais. À l'ESAD, ouais.
Et donc il filmait les concerts, et il faisait une partie interview aussi, qu'il mettait en ligne gratuitement pour les groupes, avec à un moment on s'est posé la question de faire un docu sur le hardcore au sens large. On est allé interviewer quelques personnes, finalement. On avait fait un teaser de 20 minutes qui avait pas mal plu. Et ensuite, c'est devenu beaucoup trop lourd pour ce que nous, on voulait en faire. Il y a la Haute-Croix, qui est un espèce de bar-resto aussi, où on a fait des concerts. On a eu un label aussi, No Routine Records, qui n'a pas été là longtemps, mais un jeune qui a monté, pareil, en punk rock. Ouais. On m'avait demandé de préparer un truc de 10 minutes, donc j'avais fait presque un historique avec, en essayant de citer tout le monde et oublier personne, voilà.
Mais t'as oublié la Jarry, par contre.
ça rentrait pas dans... Je les ai pas vus.
Ça rentrait pas dans le cahier des charges, visiblement.
Je les ai pas rencontrés avant 2016. Et il y a une petite pique sur les nouvelles générations punk aussi, qui sont a priori les babas contre qui les premiers punks étaient. Et c'est vrai que ça, c'était aussi quelque chose qui, moi en tout cas, dans ma pratique musicale, c'était très... la question des valeurs, de l'engagement, que ce soit activiste ou politique, c'était très important. Donc à travers le DIY, mais il y avait aussi... il y avait une librairie anarchiste à Orléans. Le chien d'an. Auquel en fait, en allant voir mes premiers concerts de punk, ça parlait, il y avait des anarcho-punk, tout ça, et donc du coup on est parti acheter des bouquins dans cette librairie. Je me suis renseigné sur l'anarchie, j'ai acheté les premiers La décroissance, toutes ces questions d'écologie, et ça me fait beaucoup rire parce qu'aujourd'hui c'est des questions qui sont admises dans le débat public, et il y a 20 ans on disait attendez les gars, vous étiez un peu extrémistes quand même là, descendez-vous. Aujourd'hui on parle d'anticapitalisme et de décroissance, et moi les groupes que j'écoutais, ça se revendiquait anticapitaliste. Il n'y a jamais le grand soir, mais ça se revendiquait comme ça. Il y avait aussi antisexiste, anti-homophobie, et tout ça. Et alors j'en reviens aussi aujourd'hui, parce que c'était des choses qu'on se disait tous ensemble, entre majoritairement des hommes blancs, où il y avait très peu de femmes, et c'était un peu facile de le dire. Et je pense que c'était un peu, c'était un autre point que j'aurais aimé faire, c'était un peu la critique de ce mouvement punk, qu'est-ce qu'on a fait vraiment en termes d'antiracisme, en termes d'anticapitalisme, en tout cas moi, sur mon vécu et ce qu'on a organisé, ou même d'antisexisme, il y a plein de choses... où on le revendiquait en fait, et au final on faisait pas grand chose. Et d'ailleurs il y a eu un Me Too Metal un peu, qui parlait notamment d'un groupe Guérilla Poubelle, qui a été aussi qui a monté Guérilla Assaut, qui moi j'écoutais pas mal de ces groupes là qui étaient engagés, voilà, ça chantait en français, ça revendiquait socialement tout ça, et puis voilà, en fait il y a des histoires qui sortent. Alors bon, ça a été démonté par certaines personnes, finalement on sait pas, bref, mais j'ai trouvé aussi que en tant que scène, enfin j'étais énormément déçu par notre manière de gérer ces choses-là, en fait, au vu de toutes les valeurs qu'on revendiquait tout le temps, et voilà, en fait il s'est passé la même chose que dans le reste de la société. Pareil avec les anards, l'autogestion, on se rend compte qu'en fait, sur ces lieux-là, les dominations, elles sont toutes les mêmes, elles se reproduisent. Et donc, ouais, en fait, je trouve qu'on a un peu... Enfin, pour moi, on se berçait beaucoup de valeurs et essayer de construire quelque chose de mieux. Et aujourd'hui, au final, bah, je ne suis pas sûr qu'on soit sorti... grandi de ces choses-là, je suis pas sûr qu'on ait fait mieux en fait.
Excuse-moi, Johan, ouais. Jean Benoît, je voudrais réagir à ça. Et non, je pense que ça a été bien d'en parler justement. Ça a été vraiment important de le soulever parce que maintenant il y a des mouvements qui continuent de revendiquer et aussi d'appliquer ces valeurs-là. À Albi, à l'Extreme Fest, ils ont eu des gros problèmes. L'Extreme Fest, c'est un festival qui a 10 ans maintenant, cette année-là. Ils ont eu des gros problèmes, justement, aussi à ce niveau-là, d'actes sexistes, ou voire plus dans leur scène. Et maintenant, ils œuvrent pour faire un espace safe de leur festival où s'il arrive quelque chose, il y a au moins une entité à aller voir pour pouvoir dire ce qui se passe et arrêter directement. Enfin, je pense que d'avoir soulevé ces problèmes-là, ça en a fait parler et ça crée des choses plus... Il y a une inertie sur les choses. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Et d'en avoir parlé il y a 20 ans, ça permet maintenant d'avoir des choses positives qui se passent dans ce sens-là.
C'est clair, il y a 2000 ans de on va dire, le terme de patriarcat, c'est certain, c'est pas avec un mouvement de 50 ans que ça va changer, mais c'est, par contre, c'est le point de départ, faut bien que ça commence, c'est clair. Mais et puis à l'image de la société, n'importe quel mouvement, il est son reflet, quoi, puisqu'il est composé d'individus. Voilà.
Non, mais je souscris tout à fait à ce point. Je souscris tout à fait à ce point de vue, tout en sachant qu'on parle de choses d'il y a 40 ans. Faut pas quand même oublier que le punk masculin en prédominance, certes, mais c'était quand même le premier mouvement où on a vu apparaître des groupes entièrement féminins, y compris la batterie, etc. Je parle pas des girls group joujou de Phil Spector, mais même si c'était ultra minoritaire, ça a permis quand même quelque chose. Si on retranspose, par exemple, dans les mouvements littéraires, les surréalistes, on dit que c'est des sales machos, homophobes, etc. Moi, je suis désolé, c'est le premier groupe littéraire à avoir mis en avant quelques femmes. Peut-être, effectivement, il n'y a que quelques, mais il y a eu des femmes qui ont été mises en avant, qu'on redécouvre aujourd'hui. Ils ont accepté aussi les homosexuels, etc. Donc, on ne peut pas tout faire. Tu parlais du Grand Soir. Le Grand Soir, c'est vrai que pour l'instant, on ne l'a pas eu. Je ne sais pas si on l'aura, ça, c'est encore un autre débat. Mais le fait qu'il y ait eu des mouvements pilotes, et on parlait de la notion de contre-culture, qui est aussi un de nos centres d'intérêt dans nos recherches. La contre-culture, ça sert à ça. Ça sert à allumer des lumières qui vont être travaillées après dans la société. Donc, heureusement qu'il y a eu le punk qui a commencé à dire « Tiens, ça serait bien de... » etc. Après, c'est sûr qu'on est, même moi, dire, quand je regarde mes pratiques d'il y a 40 ans, je faisais comme le reste de la société, quasiment. Mais voilà, maintenant, il y a des choses nouvelles qui sont passées et on peut aussi en remercier les mouvements pilotes, enfin, les mouvements expérimentaux d'avant, quoi.
Après, là, juste où je trouve dommage, effectivement, comme tu dis, enfin, il y a eu un mouvement, les Riot Girls, et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, en parlant de punk, c'est un peu passé à l'oubli. Alors, c'est aussi peut-être... dans le punk, le fait de dire on fait quelque chose par rapport à notre énergie en oubliant le passé. Mais après, je trouve que si on continue dans la musique, on a cette chose d'aller voir un peu ce qui s'est fait avant. C'est vrai que sur cette question, les Riot Girls, j'en entends pas trop parler. Le fait aussi d'avoir travaillé avec des musiciens, par exemple américains, qui m'expliquaient que le punk, en fait, les premiers concerts, c'était dans des bars gays. C'est des choses dont on ne parle pas, même aujourd'hui, quand on se retourne un peu en arrière sur ce que le punk, ça a créé. J'ai travaillé avec Kid Congo et The Pink Monkey Birds, qui étaient du coup guitariste pour les Cramps, guitariste du Gun Club, guitariste aussi pour...
Nick Cave
and The Bad Seeds. Et un jour, je lui ai dit, mais je sais pas, enfin, tu viens d'une culture, alors garage, c'est vrai, mais aussi punk, comment tu vis ton engagement? Il dit, mais en fait, moi, je suis gay, j'étais, enfin, je l'ai annoncé dès le départ, le fait de faire des concerts et que les concerts aient lieu, en fait, dans ma communauté, c'était ma manière de revendiquer et d'être un activiste, voilà, et enfin... J'ai l'impression quand même que quand on fait cette rétrospective, qui est bien, hein, c'est cool enfin, je trouve que c'est cool d'avoir par exemple aujourd'hui le punk comme objet d'étude du CNRS. Bon, est-ce que c'est toujours punk? On peut avoir le débat pendant des ans, tu vois, mais j'ai l'impression que ces parties-là, en fait, on les oublie aussi, alors que, enfin, ouais, le punk au départ, de ce que j'ai compris de l'histoire, c'est que c'est des marginaux, mais. Et enfin voilà, aujourd'hui, je connais pas beaucoup de groupes, par exemple, dans le punk rock aujourd'hui ou le hardcore, tout ça, qui se revendiquent ouvertement gays. Enfin, aujourd'hui, il y a un renouveau, par exemple, en Angleterre, sur les groupes un peu punk femmes qui font pas forcément que du punk rock non plus. Ça peut être un peu plus rock, mais qui se revendiquent de ce Riot Girl. Et c'est vrai que c'est des choses que bah. Alors ça arrive un peu en France, mais on n'entend pas trop parler. Enfin voilà. Et enfin après le but c'est pas de dire que on a fait des conneries ou je sais pas quoi, mais enfin si à un moment en fait on regarde en arrière pour regarder ce qu'on a fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'autocritique et moi le premier. Hein, enfin je vous parle d'anticapitalisme quand c'est Offspring et Sum 41 qui vous amènent au punk.
Déjà, c'est pas du punk, quoi.
Ouais, voilà. Ouais, mais c'est quand même ça qui m'y a amené. Et effectivement, la récupération capitaliste, enfin voilà, c'est. Enfin, mais voilà. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant comme exercice. Et l'autocritique est intéressante aussi.
Non, juste très rapidement. Je crois qu'à l'époque, quand nous, on s'est mis à vouloir faire de la musique ensemble pour déconner. On s'en foutait de savoir si je couchais avec un mec ou avec une nana, en fait. On a envie de faire de la musique. On s'en fout de savoir la vie privée des gens, finalement.
Si je peux me permettre, merci d'avoir posé ce débat. Le fait est qu'il y a peu d'espace, en fait, pour discuter de ça. Tu vois bien que là, en ce moment, c'est par story interposée que ça se fait et que c'est plus de l'interpersonnel et... Il y a la difficulté de construire, comme tu disais, une critique sur des outils qui nous permettent de penser tout ça, notamment les outils de la recherche, quand même, en sciences sociales, en termes de domination, de structure de domination, comment ça se reproduit, les mécanismes, et comment, justement, le résoudre ça. Il n'y a pas d'espace pour en discuter de tout ça. Donc déjà, merci d'en avoir, et l'épine, je crois qu'elle est là pour ça, hein, notamment, donc merci. Juste quand même quelque chose, je comprends ce côté amer, et bien évidemment, je le partage aussi. Effectivement, on ne se posait pas la question, mais elle s'est posée quand même aujourd'hui, quoi qu'il en soit, c'est intéressant de se dire effectivement qu'il y avait peut-être une liberté qui était plus assumée avant, qu'il est peut-être moins aujourd'hui autour de ça, mais peut-être que c'est justement parce qu'elle... elle méritait d'être mise à jour, peut-être qu'aujourd'hui on se pose ces questions-là. Bon, quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un bouquin qui est sorti sur les Riot Girls il n'y a pas très longtemps, effectivement. Il y a des initiatives de femmes, de personnes de la scène pour essayer de promouvoir les pratiques musicales. Enfin, tu as dû en entendre parler. Et qu'il faut visibiliser, bien évidemment. Je pense qu'aussi il y a des réflexions, tu vois. Moi, j'ai écrit une thèse, tu vois, là-dessus. Alors, c'était pas spécifiquement sur la question des femmes. Quoi qu'il en soit, c'était quand même sur le paradoxe de la carrière et des structures, je dirais, de mise en concurrence d'acteurs pour trouver des lieux, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a, pour notre scène, je crois, on a été très naïfs sur la question de l'horizontalité des rapports, en se disant il n'y a que à le déclarer pour que ça se fasse. Je pense que tu es d'accord avec moi. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'était pas si clair que ça, et que c'est plus compliqué, et qu'il faut qu'on fasse un retour, comme tu le dis. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, hein, moi-même, et je ne suis pas le seul, heureusement. Et on essaye de faire, tu vois, ce travail-là, et surtout de pouvoir le discuter avec vous, le discuter avec les gens pour qu'il y ait une vraie réflexion. Donc, je ne serai pas autant, négatif que tu as pu le laisser paraître. Je ne sais pas si c'était autant le cas. Il y a des choses qui se font et qui méritent d'être discutées. J'espère qu'on est sur cette voie-là, en tout cas. Et voilà, c'était ce truc-là que je voulais dire.
Peut-être un dernier...
Juste après, je crois que aussi c'est ça le une des forces, on va dire, du mouvement punk, c'est pas que de faire de la musique, porter une crête, jouer de la guitare très fort. C'est aussi et pas foutre le bordel. C'est ce que disait Strummer. C'est de respecter chaque être humain, quel qu'il soit. Et de là, on a cru peut-être qu'on s'est trompé, mais il me semble que dans le mouvement punk, ce qu'on a voulu faire comprendre, c'est d'être tolérant avec tout le monde et d'accepter n'importe qui, et quelles que soient ses origines sociales, culturelles, sexuelles, etc. C'est-à-dire que tout le monde est pareil, quoi. Et c'est le mot d'ordre, enfin, c'est un peu le. C'est un truc qui est l'anticapitalisme, l'écologisme était là bien avant les Offspring.
Bien sûr. non, mais. Enfin, je suis tout à fait. J'ai découvert d'autres groupes après, hein, il n'y a pas de souci. Hein, ça a été ma porte d'entrée. De voilà,
Green Day, c'est bien aussi. Hein.
Je crois qu'il y a encore une autre intervention.
Ouais, Mirai, ouais, il voudrait pas.
C'est bon. C'est pas vraiment en question, mais j'ai vraiment très mal de penser le punk avec le sexisme. Et je vous donne l'exemple de Roumanie. C'est bon. Roumanie, j'ai parlé tout à l'heure, quand ils ont été deux mouvements punk en Roumanie, à Craiova et à Bucarest, après. Mais tout de suite, dans ces mouvements punk, ça a commencé à naître un mouvement féministe radical qui s'appelle Love Kills. Avec l'expo que j'ai présenté en décembre, j'ai mis ces fanzines et ces pratiques radicales vraiment, et qui commencent dans ce milieu punk. Et il faut pas oublier que le punk, c'est, je sais pas, féminin avant, avec Iggy Pop, mais aussi c'est Blondie, Patti Smith. Et après, il y a beaucoup de groupes de punk, non? Vice Squad, Swixie, qui est, je crois, c'est un groupe phare en Angleterre. Donc, je vois mal, vraiment, vraiment mal. Nous, par exemple, parce que vous avez parlé beaucoup de bagarres, nous, les punks à Craiova, on a eu des bagarres avec des rockers, des rock metal, parce qu'eux, ils ont des machistes. Et nous, ça a été vraiment des grosses bagarres parce que ils ont eu toujours ces discours de la force, de la domination. Mais le punk, ça a été toujours, on dit, je sais pas, égalitaire et je sais pas, anarchiste. C'est ça que j'avais dit, féministe. Et dans les groupes les deux grands groupes, ça a été beaucoup de femmes, beaucoup beaucoup de femmes qui ont essayer de jouer, mais ça a été donc c'est ça, c'est la place du fan, ça a été vraiment très important. Et c'est pas que nous on dit, nous les gens, mais eux ils ont c'est eux-mêmes qu'ils ont fait sur place et qu'ils ont lutté, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc c'est vraiment très mal de voir l'image du pan comme sexisme ou machisme, ouais, c'est. Et Riot Girl, je crois que c'est l'exemple le plus important, non ? Merci.
Bon, merci beaucoup.